franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre. Et bonjour à tous. Savez-vous ce que c'est qu'un smombi ?
Un smombi, vous savez, vous, Pierre ? Non, non, c'est pas. C'est pas.
Eh bien, moi non plus, je ne connaissais pas ce mot-là, jusqu'à ce que je lise la chronique de Jean-Michel Normand dans M, le magazine du Monde. Smombi est une expression récemment inventée par nos voisins allemands, contraction de smartphone et de zombies. Elle désigne tous ces fantômes qui marchent dans la rue sans quitter des yeux l'écran de leur téléphone. Mmh. On en croise souvent des fantômes de ce genre, à la radio aussi. Et on peut se les cogner à la radio dans les couloirs de France Inter. Il y a également des smombies. Smombi est donc un mot valise, à l'image de l'amicale Alcoolade de Raymond Queneau, ou bien du très musical Pianoctel de Boris Vian. Ceci dit, le phénomène qu'il dénonce, ce mot smombie, n'est pas sans danger. Aux États-Unis, une étude estime que 10% des piétons victimes d'accidents se sont fait renverser par défaut de vigilance parce qu'ils étaient en train d'envoyer des textos en Chine. De larges voies piétonnes ont même été aménagées récemment pour les utilisateurs de portables, des voies exclusivement réservées aux smombies. D'ailleurs, dans la presse, ce matin, on trouve un autre mot valise. Une contraction des mots « Charlie » et « agriculteur ». C'est dans l'édito que signe Sébastien Lacroix dans les colonnes de l'Union. Les Français, écrit-il, sont tous « charligriculteurs ».
Et c'est en effet ce dont témoigne l'enquête Odoxa, publiée dans Le Parisien.
Bienveillance générale, indulgence générale, plus de 8 sondés sur 10 soutiennent les manifestations qui ont lieu en ce moment en France. Manif pour dénoncer les prix imposés par l'industrie agroalimentaire, des prix qui ne leur permettent pas de couvrir leurs frais et de se verser un salaire. Du reste, ils sont plus de 9 sur 10, 9 Français sur 10, à juger les agriculteurs utiles, courageux, passionnés. Les agriculteurs seraient même, selon cette enquête, de plus en plus proches des gens, même s'ils restent râleurs, disent les personnes interrogées. Mais ils ont donc de nombreuses raisons de râler. Ainsi que le détaille Jean-Marie Montali. Ils sont asphyxiés par les factures impayées, les normes et les contrôles, poursuivis par les banques et assommés par la grande distribution. Leur détresse est bien davantage qu'un simple coup de colère. Et au Salon de l'Agriculture qui ouvre ses portes ce matin, ils ne se contenteront pas cette année de voir défiler les politiques entre les stands pour flatter le cul des vaches devant les caméras. Ils sont, poursuit-il, le symbole d'une France patraque qui laisse à l'agonie un monde qui hier encore faisait sa fierté et leur exaspération qui frise désormais la révolte, attenant maintenant un plan de sauvetage applicable très rapidement. La tonalité est quasi identique dans l'ensemble des journaux ce matin. « Vache de crise », titre ainsi la Voix du Nord, tandis que l'écho de la Haute-Vienne évoque le salon de la colère. Alors le président de la République est sur place depuis 2 heures maintenant. Et Jean-Michel Servan prévient dans Midi Libre que François Hollande n'est pas le bienvenu au palais de la Porte de Versailles. Gare au mauvais coup de corne et au G2, lance-t-il. Ce salon pourrait tourner à la jacquerie, abonde Daniel Muras dans le courrier Picard, tandis que Gaëtan de Capelle dans le Figaro estime que si le chef de l'État ne dispose pas de remède miracle, au moins est-on en droit d'attendre de lui des initiatives de bon sens. Des initiatives que liste notamment Libération ce matin, ralentir l'inflation de l'élevage intensif, ne pas tout miser sur l'export, se concentrer sur les circuits courts, opter pour la qualité, les labels, le bio, regrouper les structures et créer de nouveaux outils de régulation, autant d'initiatives qui permettraient peut-être au secteur de relever la tête. Savoureux dessin de Rançon dans Le Parisien, dialogue entre une vache et un cochon. La vache lance au cochon. Je t'assure, il ne faut pas désespérer. L'agriculture française peut s'en sortir. Le cochon répond à la vache. Ah bon? Tu as confiance, toi, dans cette réforme du droit du travail? La vache et le cochon. Un dialogue que La Fontaine n'aurait sans doute pas désavoué.
Et puis cette réforme du droit du travail qui fait d'ailleurs la une de Libé ce matin.
Libé qui nous explique l'histoire secrète de la loi de Myriam El Khomri. Ou comment le projet de réforme du code du travail, au départ envisagée comme une loi sociale qui devait réconcilier les socialistes avant 2017, comment ce texte est devenu celui qui déchire aujourd'hui la gauche. Récit des coulisses de l'évolution de ce projet. D'abord, une interview de Robert Badinter qui estime que le texte ne va pas assez loin. Malvel Valls le prend mal et il choisit alors de taper plus fort en l'occurrence plus à droite. C'est également son cabinet qui suggère à la ministre d'évoquer l'utilisation possible du 49-3 contre l'avis de l'Élysée. Certains soulignent par ailleurs l'influence du directeur de cabinet de Myriam El Khomri, Pierre-Henri Humbert, ex-collaborateur de Raymond Soubi, qui fut l'ancien monsieur social de Nicolas Sarkozy. C'est lui, le vrai ministre, balance un socialiste, ajoutant que sa supérieure est totalement instrumentalisée. D'autres disent même qu'elle est en plein burn-out, ce que la ministre dément, rétorquant qu'elle est endurante. Endurante peut-être, mais pas très bonne en communication, assurément. Lire à ce sujet le papier de Tristan Berthelot. Plus de 800 retweets et 5000 abonnés quelques heures après son lancement. La petite opération de com du gouvernement, jeudi, sur Twitter, pour défendre le projet de loi El Khomri, a été un franc succès si l'objectif était de se ridiculiser. Le premier tweet de la ministre, aux allures de messages, d'approches, de sites de rencontres. « Bonjour Twitter, je suis le projet de loi travail. On parle beaucoup de moi, mais on me connaît mal. Et si on faisait connaissance ?» Ce tweet n'a reçu que doigt d'honneur numérique, vanne plus ou moins bien sentie. Il y a bien eu un message de félicitations, mais il est venu du MEDEF. On aurait voulu provoquer pire bad buzz qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Le gouvernement a donné l'impression de mépriser ses interlocuteurs, renforçant un peu plus le sentiment qu'il se place en surplomb des Français. Un soupçon également nourri par le soutien apporté au texte par une partie de la droite, Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet et même Alain Juppé. Mais à quoi joue la droite ? Se demande le Parisien. Après avoir applaudi la déchéance de nationalité, la droite s'apprête-t-elle à apporter son soutien à un autre projet gouvernemental ? La liste des personnalités favorables au texte El Khomri s'allonge dans les rangs des Républicains. Alors pourquoi soutenir ce texte ? Car à ce stade, ça ne coûte rien de le dire, décrypte un stratège du parti. Et ça présente un peu plus Hollande comme le meilleur allié de la droite face au peuple de gauche qui se sent trahi. Il le paiera très cher en 2017. Du moins s'il est de nouveau candidat. Chez certains candidats à la primaire de novembre 2016, les calculs sont encore plus machiavéliques. Si on soutient ce texte, c'est parce que ça ringardise surtout Nicolas Sarkozy, attaque frontalement un soutien de Juppé. Contrairement à lui, qui n'a jamais osé s'attaquer aux 35 heures, Hollande propose une vraie réforme de droite. Tout ça enfonce un cadre du parti Les Républicains. Tout ça, c'est simplement pour faire chier Sarkozy.
Et Nicolas Sarkozy, dont on peut lire l'interview d'une des proches dans Vanity Fair.
En l'occurrence, sa maquilleuse, Marina Michenet, qui a travaillé à son service pendant tout son quinquennat à l'Élysée. Je ne savais pas qu'il avait une maquilleuse Anne Meur, mais si, elle était payée 8000 euros par mois et elle devait être disponible à tout moment. Avant cela, elle maquillait les vedettes du showbiz, des acteurs, des actrices. Mais là, pendant 5 ans, c'est donc le visage du chef de l'État qu'elle a tenté d'arranger avant chaque rendez-vous important, avant les sommets internationaux, avant les interviews à la télévision, des maquillages au doigt toujours et des mélanges de fond de teint. Elle raconte sa vie usante de collaboratrice, les voyages, la fatigue donc et le coup de colère de celui qui était à l'époque président de la République quand elle a accepté de maquiller François Fillon, le Premier ministre. « Plus jamais tu ne me fais ça », lui a hurlé Sarkozy. En revanche, il acceptait qu'elle maquille les autres grands dirigeants du monde, notamment Barack Obama. « Je te la prête si tu veux ». Un jour, Henri Guénaud a lancé à Marina « Tu es la seule à pouvoir écrire un bon livre sur le quinquennat ». Confidence donc de la maquilleuse de Nicolas Sarkozy. Un mot valise, la sarquilleuse, la beauté en politique, vaste sujet. Parfois, il y a même harcèlement. Toute la presse revient sur une information parue hier dans Sud-Ouest. L'étudiante qui aimait trop Emmanuel Macron, rappelée à la loi. Depuis des mois, une jeune étudiante de Montpellier envoyait des mails à caractère érotique et même des selfies pornographiques à Emmanuel Macron sur sa boîte privée. Harcèlement sexuel. Le ministre de l'économie a fini par porter plainte. Elle a été placée jeudi en garde à vue, mais n'a écopé que d'un simple rappel à la loi. Cette jeune femme, estime la police, souffre de troubles psychologiques conséquents, mais l'enquête a montré qu'elle ne présentait aucune dangerosité. Les journaux reviennent également sur la cérémonie des Césars. Meilleur film Fatima, réalisé par Philippe Faucon. Meilleur réalisateur Arnaud Desplechin pour Trois souvenirs de ma jeunesse. Meilleure actrice Catherine Frou pour Marguerite. Meilleur acteur Vincent Lindon pour La loi du marché. Mais tous les journaux soulignent surtout la réussite de la maîtresse de cérémonie qui a enfin réussi à réveiller ces Césars souvent si ennuyeux. La maîtresse de cérémonie, c'était Florence Foresti. Au César hier soir, c'était donc surtout Forestard.
Et puis pour finir, Frédéric, vous avez des nouvelles de Nancy Alice ?
Oui, Il y a deux semaines, souvenez-vous, je me faisais l'écho de cette petite annonce parue dans Libération à la veille de la Saint-Valentin. Une annonce publiée par Nance, une demande en mariage. « Alice, veux-tu m'épouser ?» disait-il. Et bien suite à cela, j'ai reçu un message de Nance, un très joli message dans lequel il m'explique qu'Alice a dit oui, ils se marieront cet automne et on leur souhaite évidemment beaucoup de bonheureux événements par la suite.
On veut bien être témoin, hein, vous et moi.
Écoutez, nous nous déplacerons si besoin.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.